Pour moi, c'est une des premières raisons pour lesquelles on veut partir faire un tour du monde comme ça, c'est qu'on veut vraiment faire un break, quoi. On veut se prendre un moment où on n'a plus de contraintes de travail, d'horaire. On peut se lever le matin, ne rien faire si on a envie. On peut dire, bah tiens, en fait, j'avais prévu d'aller là, mais finalement, je me sens bien à cet endroit-là, je reste plus longtemps. Ou au contraire, je suis à un endroit, je me sens pas très bien, j'avais prévu d'y rester une semaine, bah finalement, je vais partir tout de suite et aller ailleurs. C'est, je pense que par rapport à un voyage plus classique des vacances quand on part 2-3 semaines dans un pays étranger, c'est vraiment le principal avantage d'un long voyage, c'est que on a beaucoup plus de souplesse en fait. On peut faire des choses qu'on ferait pas forcément pendant un voyage qui est plus court.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storyfique. Ta mission ce jour? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Ce jour, on fait le plein de bons plans pour les voyages au long cours, puisqu'on va parler Tour du Monde avec les spécialistes du blog Tour du Mondiste. Alors on va le voir, il y a autant de formules de voyage que de voyageurs, ça Sylvain et François en sont bien conscients. Leur blog, hyper complet, bourré d'astuces pour se concocter son voyage à soi, se base sur l'intelligence collective de sa communauté pour fournir un max d'infos pratiques et de bons plans. Sympa la formule. Ce fut d'ailleurs très difficile pour Sylvain de parler de lui, il n'arrêtait pas de me dire « c'est la communauté que nous voulons mettre en avant, pas nous !» Alors un grand bonjour au Tour du Mondiste qui nous écoute, du coup. C'est donc Sylvain qui répond à mes questions ce jour. On va voir comment le blog est né, comment il a eu la chance de rencontrer une réelle demande qui ne trouvait sa réponse dans rien de ce qui existait. Et Sylvain a aussi nous parlé d'un peu de leur tour du monde à eux, avec François, là où tout a commencé. Si tu es amateur de voyages longs et lointains, cet épisode est pour toi. Sors ton carnet de notes, il y a plein de bons plans. Bonjour Sylvain.
Bonjour Anne B.
Alors aujourd'hui, on va faire un enregistrement un peu particulier puisqu'on va parler des tours du monde et parce que tu as avec ton ami justement Tour du Mondiste un blog dont on va parler. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser le soin de te présenter.
Oui, alors avec François, on a fondé il y a à peu près 12-13 ans un site qui s'appelle tourdumondiste.com. Et en fait, nous, on donne des conseils aux gens qui veulent partir en tour du monde ou en long voyage. C'est pas forcément un tour du monde. Et voilà, donc on leur donne plein de conseils pour préparer un long voyage comme ça. Ça va de qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac, comment construire son itinéraire, comment acheter ses billets d'avion, quels sont les autres moyens que l'avion qu'on peut prendre pour voyager. Quelle assurance il faut prendre, quelle banque il vaut mieux prendre pour pas avoir trop de frais, etc. Voilà, c'est des conseils très très pratiques, on va dire.
Ben on va commencer tout de suite par une question de ma première petite fille, Amandine, parce qu'elle prépare toujours avec moi. Donc, elle pose chacune une question, puisque bon, c'est encore sympa de leur apprendre les choses un peu autrement. Donc, voilà sa question à elle.
Pourquoi vous voulez faire un tour du monde ?
Pourquoi on fait un tour du monde, à ton avis? Qu'est-ce que tu vois comme les grosses raisons de faire un tour du monde? Toi, justement, t'avais une belle raison. C'est une chouette story, en fait, qu'elle te demande. Là, quand on avait préparé, tu m'avais un peu raconté d'où ça venait, cette idée de tour du monde. Vas-y.
Bah, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, nous, l'idée, elle venait, c'est plus François qui avait eu l'idée à la base. Il avait envie, comme ça, de partir, voyager longtemps parce que je crois que c'était sa grande sœur qui lui avait parlé de ça, qui lui avait évoqué l'idée. Et puis, il s'est dit, bah ouais, c'est une bonne idée, en fait, faire un tour du monde, c'est super. Et moi, à l'époque, j'habitais en Angleterre et il m'a appelé un jour en me disant « bah ça te dirait pas de partir faire le tour du monde ?» Sur le coup, j'y avais pas forcément réfléchi. Je me disais « bah ouais, pourquoi pas ?» Et puis, en fait, c'est vrai que de toute façon, moi, j'avais envie de toute façon de rentrer en France à un moment ou à un autre. Et je me suis dit « bah pourquoi pas, avant de rentrer en France, prendre une année de break et puis partir pour un an ?» Et c'est vrai que moi, j'avais déjà pas mal vécu à l'étranger. J'avais habité dans plusieurs pays pour les études, pour le travail, pendant déjà 4 ans avant de partir en tour du monde. Mais c'est vrai que partir vraiment en mode complètement vacances comme ça, sans aucune contrainte, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça peut être sympa. En fait, pour moi, c'est une des premières raisons pour laquelle on veut partir faire un tour du monde comme ça, c'est qu'on veut vraiment faire un break, quoi. On veut se prendre un moment où on n'a plus de contraintes de travail, d'horaire, de je dois faire les choses dans un certain ordre avec beaucoup de contraintes. On peut se lever le matin, ne rien faire si on a envie. On peut se dire bah tiens, en fait j'avais prévu d'aller là, mais finalement je me sens bien à cet endroit-là, je reste plus longtemps. Ou au contraire, je suis à un endroit, je me sens pas très bien, j'avais prévu d'y rester une semaine, bah finalement je vais partir tout de suite et aller ailleurs. Je pense que par rapport à un voyage plus classique des vacances quand on part 2-3 semaines dans un pays étranger, c'est vraiment le principal avantage d'un long voyage, c'est que on a beaucoup plus de souplesse en fait. On peut faire des choses qu'on ne ferait pas forcément pendant un voyage qui est plus court.
J'avais vu aussi sur le blog, en fait, c'est François, alors qu'il est à l'origine du Tour du Monde. Lui était en gros questionnement, point de vue professionnel, c'est ça, hein, qu'il avait décidé à dire, je prendrais bien les...
C'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. François, à ce moment-là, il était un peu... Il se posait pas mal de questions sur ce qu'il voulait faire et c'était aussi un moyen pour lui, je pense, de se donner un peu de temps pour réfléchir, parce que c'est vrai que partir en long voyage comme ça, c'est aussi un moment où on prend du temps pour réfléchir, tout simplement, des choses quand on est pris un peu dans le tourbillon de la vie quotidienne classique, on va dire, on n'a pas forcément le temps de se poser, de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, ce dont on a vraiment envie. Et c'est vrai que partir dans un long voyage comme ça, c'est aussi se donner du temps, pas pour penser à soi-même, quoi.
Ouais, c'est quelque chose que tu retrouves souvent chez les tours du mondistes.
Oui, c'est une raison qu'on entend souvent citer chez les tours du mondistes. Et alors, il y a des cas différents. Il y a vraiment plein de sortes de tours du mondistes. Chacun le fait pour ses propres raisons. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec leur vie telle qu'elle est et qui vont juste demander un congé sabbatique ou une mise en disponibilité et qui vont revenir et reprendre le même job et à qui ça convient parfaitement. Donc, qui sont pas forcément spécialement en questionnement, mais qui ont juste envie de faire un break et de se prendre une grosse année de vacances. Et par contre, il y a des gens qui sont, un peu plus en questionnement et qui vont profiter du tour du monde pour réfléchir un petit peu à ce qu'ils ont envie de faire et qui souvent reviennent avec des projets et puis en revenant peut-être créent leur entreprise ou changent complètement de secteur, font quelque chose qui a plus de sens pour eux. C'est vrai que ça remet un peu les idées en place. Ça donne une autre perspective en fait de faire un long voyage comme ça.
Oui, perspective. Très bon mot pour un tour du monde, c'est vrai. J'ai fait un tour du monde, j'ai fait un voyage de 4 mois en famille, mais c'est vrai que ça remet la perspective. C'est un très bon résumé. Mm. Ouais. Et parle-moi un peu justement de votre tour du monde. Comment ça s'est passé, ce tour du monde? Vous l'avez préparé longtemps?
Nous, on l'a préparé, je dirais, un peu plus de 6 mois à l'avance. Et en fait, nous, on a fait un tour du monde en faisant toutes les erreurs qu'on peut faire quand on fait un tour du monde et qu'on n'a pas forcément trop réfléchi à la chose et qu'on connaît pas forcément d'autres personnes qui en ont fait avant. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de sites pour se renseigner pour le préparer.
Bah justement, j'aurais une question justement sur destination après de mon autre petite fille, mais qu'est-ce que vous avez fait alors comme tour du monde, vous?
On a été d'abord en Inde et au Népal, ensuite en Thaïlande, en Indonésie, où on est resté assez longtemps, on est resté 2 mois en Indonésie.
Je vais t'interrompre parce que sinon tu risques de donner la réponse de ma petite fille, alors je vais lui laisser poser la question avant que tu ne continues ton histoire, pour qu'elle puisse quand même la placer. Hop là.
Est-ce que vous êtes allé au Japon?
Ah non, on n'est pas allé au Japon. Non, c'est un pays que j'aimerais bien visiter, mais j'y suis jamais allé encore.
Il est sur la wish list. Ok. Oui. Alors, on en était resté du coup en Indonésie, c'est ça?
Voilà, oui.
Je t'ai interrompu.
Oui, donc on est resté 2 mois en Indonésie. Ensuite, on est parti en Australie. On avait prévu d'aller en Nouvelle-Zélande, mais comme on avait traîné un peu en Indonésie, on n'est pas resté en Nouvelle-Zélande. Et après, on est arrivé à Santiago, au Chili, et on est allé directement en Argentine où on a passé 1 mois pour apprendre l'espagnol, parce qu'on ne parlait pas espagnol. Donc on a tous les deux appris l'espagnol. Et après, on est remonté par la Bolivie, le Pérou et jusqu'au Mexique en bus, en passant par tous les pays. La Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, puis tous les pays d'Amérique centrale.
Ouais, chouette. Ça vous a pris combien de temps, tout ce beau tour?
Pile 1 an. On a fait ça sur 1 an. François, un tout petit peu moins, parce qu'il est rentré un petit peu avant. En fait, on a voyagé à peu près la moitié du temps ensemble et la moitié du temps chacun de notre côté. parce qu'on n'avait pas forcément toujours envie de faire les mêmes choses, et du coup on s'est dit, bah en fait on n'est pas obligé de voyager tout le temps ensemble. Donc on a fait, il y a des parties du voyage où on partait chacun de notre côté faire des choses différentes, et puis après on se retrouvait et puis on refaisait une partie de voyage ensemble, etc.
Oui, c'est ça, c'est marrant, tiens, de faire un tour ensemble, mais pas tout le temps. C'est original.
Bah ouais, oui, c'est vrai que je pense que les gens qui partent en couple font pas ça, parce que bon, voilà, on part en couple, on voyage ensemble. Ouais, mais nous, comme on était entre potes, on avait, voilà, chacun des moments, on avait envie de faire des choses différentes. Par exemple, moi, en Indonésie, j'avais envie de plonger, je voulais passer mon dive master. Et donc, dive master, ouais, c'est l'équivalent du niveau 4 en France, donc ça prend pas mal de temps de faire tout ça. Et donc, je suis resté 2 mois dans un centre de plongée, un peu en stagiaire dans le centre de plongée, quoi. Je travaillais dans le centre de plongée. Et pendant ce temps-là, François, lui, il avait plus envie de vraiment de visiter l'Indonésie. Donc, il est parti vraiment dans les fins fonds de l'Indonésie, dans des petites îles où personne ne va. Voilà, on avait chacun notre objectif. Moi, c'est vrai que j'adore la plongée. Et lui, il avait vraiment plus envie de découvrir. Donc, on a vécu l'Indonésie chacun de notre façon, quoi.
Ouais, comme ça peut, voilà. Les besoins de chacun peuvent être respectés, c'est super.
Non, je disais en Argentine, c'est pareil. François, lui, il avait pas forcément envie de prendre des cours de manière officielle dans un centre de langue. Donc lui, il est allé, il était à Cordoba, et lui, il a surtout appris, en discutant avec les gens dans les bars, etc. Voilà. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'étais à Buenos Aires et j'étais dans vraiment une école de langue, parce que ça me convenait plus comme façon d'apprendre.
Ah oui, c'est deux styles bien différents. Un dans les bars, l'autre à l'école.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et alors, qui a gagné? Qui avait le meilleur niveau à la fin?
Les deux ont bien fonctionné, franchement. On a tous les deux bien appris l'espagnol. Je pense qu'on a à peu près le même niveau à la fin. Donc, les bars, ça marche aussi. Il n'y a pas que les écoles.
Et donc, oui, ça, après, c'était retour en France. Et le retour, ça se passe comment? Ça a été ou...
Nous, ça a été.
C'était dur quand même.
Pour moi, ça a été plutôt facile. Pour François, peut-être un peu plus difficile quand même. Mais moi, ça a été assez facile en fait. Pourtant, on est revenu juste après la crise, la grosse crise financière en 2019. Et donc, comme on revenait, on n'avait pas de travail qui nous attendait en France. Moi, j'avais un peu peur au début de me dire, est-ce que ça va pas être galère de trouver du boulot? Et au final, j'ai trouvé du travail vraiment rapidement. Et donc, le retour s'est vraiment bien fait. On a retrouvé tous nos copains. Moi, c'est plutôt un bon souvenir, en fait, le retour du Tour du Monde. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un peu de mal, pour qui ça peut être un petit peu difficile, mais après, on est rentré en été, ça peut aider aussi, je pense, de rentrer à une période où il fait beau, parce que c'est vrai que rentrer en France au mois de novembre, je pense que ça doit être beaucoup plus dur. mais
c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Et alors, pendant votre voyage, vous étiez plutôt sac à dos, auberge de jeunesse ou...
Nous, oui, surtout comme ça, oui. En général, on est dans les hôtels les moins chers. Hein. Quand on voyage longtemps comme ça, c'est vrai que pour essayer de faire durer le budget, on va vraiment dans les endroits les moins chers. On voyageait surtout en bus, parfois en train. Et ça dépend des continents, mais dans les pays plus riches comme l'Australie par exemple, là c'était vraiment auberge de jeunesse où là on avait acheté même une tente. En fait, on avait loué une voiture et on avait une petite tente, donc la plupart du temps on a dormi dans notre tente. C'est quand même ce qui revenait le moins cher.
J'ai vu sur le truc tour du monde disque, c'était pas mal de prendre une voiture et une tente pour dépenser moins de carbu, etc.
C'est vrai que c'est ce qu'il y a de moins cher. Ouais, ça fait un peu moins cool sur les photos qu'un van ou qu'un autre type de véhicule, mais c'est vrai que c'est quand même ce qui reste le moins cher, hein, d'acheter une petite voiture, de prendre une petite voiture avec une tente. Et puis surtout qu'en Australie il y a des campings d'État partout qui sont gratuits, qui sont super, donc ça suffisait largement.
Ah ouais, génial.
Et oui, après en Amérique latine, on allait dans ce qu'on appelle les hostals là-bas, donc c'est un peu type auberge de jeunesse. Et en Asie, c'est beaucoup. En Asie, on appelle ça souvent des guest houses, donc c'est comme des petits hôtels, mais des hôtels sans chichi, quoi. C'est assez simple, avec une petite cabane pas loin de la plage, et puis voilà, quoi.
Ouais. Que demander de plus quand on a 20 ans?
Voilà.
Ouais, même plus d'ailleurs.
Après,
du moment que ça permet de voyager longtemps, chacun ses priorités. Hein.
Ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres façons de faire le tour du monde. Il y a des gens qui le font dans leur propre véhicule, qui achètent un camping-car ou un 4x4 et qui partent voyager là-dedans. Il y en a qui le font en vélo. Ça peut être une super façon de voyager aussi.
Ouais, il y en a eu plusieurs sur le podcast qui ont fait des grands trips
des
en vélo.
Des voyages en vélo.
Ouais. Ça, c'est très, très, très chouette.
En autostop, ouais. Voilà. Il y a autant de façons de voyager que de voyageurs.
Exact. Belle formule. Et donc, en fait, vous aviez commencé un blog qui n'avait aucune prétention de autre que de tenir informé la famille et les amis, c'est ça ?
Oui, oui, au début, c'était vraiment un petit blog qu'on a créé avec un copain la veille du départ, parce qu'à l'époque, on ne savait même pas créer un blog nomade, donc c'était un copain qui nous a fait ça vite fait avant de partir. Et puis oui, c'était juste ça, c'était pour écrire un petit peu ce qu'on vivait et puis mettre quelques photos pour que les copains et la famille puissent nous suivre un petit peu. Et puis c'est vrai qu'en cours de route, c'était quand on était en Australie à peu près à la moitié du voyage, où on s'est dit bah ouais en fait c'est marrant parce que quand on a préparé notre tour du monde, en fait il y a aucun site bien fait qui explique comment on prépare un voyage comme ça. Quoi. On devait vraiment aller à la pêche aux infos sur des forums, des choses comme ça. Il y avait 2-3 petits sites qui mettaient quelques infos, mais vraiment pas grand chose. Et on s'est dit bah tiens si on essayait nous de d'écrire un peu des conseils sur certains sujets pour aider les gens à préparer le leur. Et en fait, à partir du moment où on l'a fait, qu'on a fait un petit peu de référencement pour que les gens puissent nous trouver sur Google, et on a vite commencé à avoir quand même pas mal de trafic, et du coup, ça nous a donné envie de continuer, et puis on s'est un peu pris au jeu comme ça, jusqu'à ce que, bah voilà, maintenant le site, ça devienne un peu, c'est un peu le site de référence là pour les gens qui font des longs voyages, quoi.
Ouais, c'est génial. Ouais. Donc c'est vraiment devenu votre business à temps plein maintenant. C'est ça que tu me disais, hein?
Bah oui, maintenant, ouais, c'est notre activité. Ouais.
Ah là, si vous aviez... Vous n'auriez jamais deviné ça en demandant l'aventure, c'est trop génial.
J'irais pas jusqu'à dire à temps plein, mais ouais, c'est notre activité principale, quoi.
Principale, ouais, c'est ça. Alors moi, je suis tombée sur votre site, votre blog, car vous avez une page que je trouve hyper intéressante, je la mettrai en lien direct des notes de l'épisode, c'est comment réduire son empreinte écologique en voyage. Alors il faut descendre au un tiers de la page et on tombe sur un graphique hein, qui montre l'impact écologique de chaque moyen de transport par nombre de passagers, suivant le nombre de kilomètres parcourus, c'est hyper bien fait. Donc c'est pas vous qui l'avez fait, tu m'as dit c'est l'ADEME, hein, c'est là que vous l'avez repris. Mais vous l'avez quand même bien mis en avant, parce que moi j'étais jamais tombée sur cette référence de l'ADEME qui m'intéresse beaucoup, mais je suis tombée dessus via vous. Donc bravo de relayer ce genre d'infos.
Oui, et en fait l'ADEME, on les donnait quand on cherche dans leur ce qu'ils appellent la base carbone. Donc en fait c'est
et vous avez fait l'infographie.
C'est un outil qui est un peu voilà un peu touffu qui est plutôt à destination des professionnels qui veulent calculer l'impact carbone de leur activité etc. Et du coup nous on a été chercher toutes ces données et puis on en a fait on a mis ça sous forme de graphique pour que ce soit un petit peu plus lisible justement pour que les personnes qui sont sensibles à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le réchauffement climatique en voyageant puissent prendre des décisions en connaissance de cause quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire « Ah oui, mais un bateau, ça pollue autant qu'un million de voitures. Par contre, un avion, ça pollue plus qu'une voiture. » Enfin, en fait, les gens savent pas si prendre un ferry, ça pollue plus que prendre l'avion. Si prendre une voiture tout seul, c'est mieux ou c'est moins bien que de prendre l'avion. Voilà, donc ça permet de voir vraiment en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la voiture, de la distance en avion, de plein de critères différents, de pouvoir vraiment comparer un moyen de transport avec un autre.
Ouais, c'est génial parce que vraiment, ouais. C'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Encore comme ça avec l'infographie, c'est vrai qu'on se dit, par rapport, le van, il explose même l'avion, hein. Donc, la van life, soit tout seul dans un truc, faut quand même le savoir, ça explose l'avion. Mais par contre, on fait moins de kilomètres en général.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que ça peut être un peu trompeur comme façon de présenter les choses parce que on va avoir l'impression qu'en effet, par kilomètre, un van avec deux personnes dedans va émettre plus de CO2 qu'en avion. Mais la grosse différence, c'est qu'on va faire beaucoup moins de kilomètres par mois, quoi. Hein, quelqu'un qui voyage en avion et qui part directement à Bangkok et après qui reprend un avion pour aller à Sydney, comme nous on a pu le faire pendant notre tour du monde, bah on pollue beaucoup plus que quelqu'un qui va prendre son van et qui va doucement se diriger vers l'Asie en passant par les Balkans, la Turquie, etc. et qui du coup au final d'une année de voyage aura fait beaucoup moins de kilomètres que quelqu'un qui voyage en avion. Donc je pense que ça reste quand même moins polluant de voyager en van qu'en avion.
Ouais, c'est ça, quoi. Donc, ouais. C'est une excellente base, en tout cas, pour se faire une bonne idée. C'est la première fois que je voyais ça aussi clairement, donc je dis, Alléluia. C'est-à-dire pour ça que je t'avais contacté. Je me dis, waouh, ouais, c'est bien fait. En plus, j'ai adoré le ton, le graphisme est super. Je crois que c'est ton métier, en fait. T'es graphiste, hein, c'est ça?
C'est François. François est graphiste.
C'est François.
Ouais.
Ah ben ouais, faudra le féliciter parce que vraiment, c'est super sympa. C'est un site, voilà, c'est très pro, mais ça se prend pas la tête. Enfin, le ton donné par le style que vous avez choisi est très, très convivial. Vraiment génial. Et voilà, c'est clair. Cette page-là est géniale aussi parce qu'elle est pas du tout moralisatrice. Elle est vraiment juste informative avec le ton qu'il faut. Après, vous avez en dessous, vous aviez encore toutes des informations sur tous des lieux communs qu'on entend par rapport à justement ce qui est polluant, ce qui n'est pas, oui, les excuses qu'on peut se donner ou quoi, mais juste informé, vraiment très 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 sympa, très léger. Et puis les alternatives, ça se termine par toutes les alternatives pour ceux qui veulent justement faire attention à faire un voyage plus vert. Et c'est vachement intéressant. Donc ouais, il y a le vélo, le boat stop, donc le bateau stop, c'est trop génial. Et avec en plus des liens pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'endroit où on peut se signaler comme aspirant bateau stoppeur.
Oui, bah après c'est des sujets qu'on développe même dans d'autres. On a écrit des dossiers vraiment spécifiquement là-dessus. On a un dossier justement sur le bateau stop pour vraiment expliquer en détail comment on peut faire ça. On a un dossier sur le transsibérien aussi qui est un bon moyen de réduire l'empreinte carbone. Bon, alors en ce moment la Russie c'est un peu compliqué, mais
oui, j'allais dire la Russie pour l'instant c'est dommage parce que ça c'est un de mes rêves de faire le transsibérien. Ouais,
en temps normal, mais bon, c'est vrai que ça peut être un bon moyen sur l'autostop. Donc sur le tour du monde en vélo aussi, on a écrit un dossier là-dessus. C'est vrai que comme tu dis, en fait l'idée qu'on avait nous, c'est qu'on veut pas être moralisateur. On dit on sait que on a un site qui s'adresse à des gens qui vont en moyenne beaucoup polluer, parce que faire un tour du monde, faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui est très polluant. Nous, on est sensible à cette cause-là et à titre personnel, on essaye de beaucoup moins prendre l'avion maintenant. Mais on voulait pas être moralisateur et puis dire à nos lecteurs, ce que vous faites, c'est mal, il faut pas le faire, il faut plus prendre l'avion. Et voilà, on voulait pas adopter ce ton-là. Et c'est vrai, enfin, c'est surtout moi, je trouve que c'est important d'avoir une démarche positive quand on parle de ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de dire aux gens ce que vous faites, c'est mal. L'idée, c'est de juste poser les faits, de dire, voilà, les impacts du réchauffement climatique. Voilà quels sont les effets d'un tour du monde, en termes vraiment chiffrés, bien sourcés, etc. Les solutions, si on veut essayer de diminuer. Et après, chacun est responsable. Et je pense que si quelqu'un dit, moi, j'ai envie de faire le tour du monde en avion parce que c'est un truc dont je rêve depuis des années et voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut accepter que quelqu'un dise, moi, j'ai conscience que ce que je fais, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien pour la planète, mais j'en ai trop envie, j'ai envie de le faire, quoi. Et c'est ok, parce que après peut-être que cette personne-là à côté, elle va être végétarienne toute sa vie, elle va faire tous ses déplacements en vélo et que d'une façon ou d'une autre, elle arrivera aussi à prendre sa part.
Justement, ça donnait bien les ordres de grandeur aussi par rapport à tout ça. C'est vrai que être végétarien puis se taper un tour du monde, ça va pas compenser, ça c'est clair. Mais voilà, c'est mieux que de ne pas le faire. En tout cas, ça, on est absolument, absolument d'accord. Et puis moi, je suis plutôt de la team, ok, voyageons moins, voyageons mieux. Donc faire plutôt des grands voyages avec effectivement un maximum de trains ou d'autres choses. Mais plutôt que dire plus jamais, je dis si je prenais l'avion 3 fois par an, si je fais plus qu'une fois tous les 4 ans, c'est peut-être déjà un peu mieux. Voilà, il y a aussi... comme ne pas être tout à fait végétalien ou végétarien, mais ne plus manger de viande qu'une fois par semaine. Bon, voilà, il y a aussi toutes ces nuances qui vont dans la bonne direction et qui disent, voilà, c'est pas nécessaire de se priver épouvantablement. Il y a plein de solutions qui existent, et ça, vous l'avez fait très intelligemment dans votre page, je trouve. Je vois, il y a aussi une voiture moyenne, un passager et un avion. Par exemple, 170 passagers, 500 km, au coût carbone par kilomètre, il y a plus trop de différence, par exemple. Hein. C'est bien de se rendre compte aussi quand on prend sa voiture, soit tout seul, surtout si c'est un gros 4x4. Alors là, il y a carrément une différence négative. Hein. Je veux dire, le 4x4 va battre l'avion sur le même nombre de kilomètres. Enfin, c'était intéressant ce graphique, vraiment.
Sûr que
vraiment.
Pour un voyage en Europe, si on a le choix de prendre sa voiture tout seul pour aller, aller de Lille à Marseille ou prendre l'avion, il n'y a pas une grosse différence entre les deux en termes d'émissions de CO2.
Ouais, c'est ça. Enfin, si on prend toute la petite famille, là, par contre, pitié, ne prenez pas l'avion. Sachant aussi que les décollages, atterrissages, c'est le pire. Donc, c'est tout des calculs à faire.
Puisqu'on parle de voyage dans cet épisode, j'en profite pour te glisser quelques bonnes adresses, celles où tu peux compenser le carbone qu'émet ton voyage. C'est un super geste pour ne pas voyager en mode nombriliste ou en mode Oussama Hamar. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion, je vous mets le lien dans les notes, vous comprendrez vite. Donc, quelques adresses que je connais pour compenser en carbone. Il y a CO2Logique, Reforest Action, Good Planet et Graines de Vie, que ce podcast d'ailleurs soutient activement. Je vous file ces liens dans les notes de l'épisode aussi. En parlant de soutien, tu peux soutenir ce podcast sur Patreon, ce serait super. Mais encore plus simple, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Si tu veux comprendre comment on peut transformer les écoutes en arbres, toutes les infos sont sur storylifique.com/soutien. Alors, outre vos bonnes astuces pour voyager plus vert, il y a aussi des guides par pays, alors des astuces pour préparer son budget, des applis pratiques. Alors, c'est quoi ces apps que vous recommandez souvent, par exemple? Moi, j'ai noté de mon côté déjà ExpressVPN pour la Chine. Alors là, vraiment, je conseille absolument installer un VPN avant de rentrer parce que on était au courant, nous, quand on avait été en Chine, que pour le Facebook, c'était mort. Mais bon, on n'est pas trop des apps de Facebook, on s'en fichait un petit peu. Mais alors, le coup que tous nos Gmail, etc., toutes les recherches Google, ce soit mort aussi, ça, on savait pas que, voilà, Google, en Chine, c'est pas question. Donc, si on est sur tous ces systèmes-là, c'est vrai que si on veut rester un peu au contact, ce qui se passe en dehors de la Grande Muraille de Chine, qui est toujours bien vivante virtuellement, bah, il vaut mieux avoir un VPN, par exemple. Nous, on avait aussi beaucoup utilisé Maps.me, que vous recommandez aussi, le Maps.me, pour pouvoir télécharger les cartes par pays. C'est super bien fait partout où on avait été, c'était génial. Et toi, t'en as d'autres qui sont dans
alors,
tes chouchous?
Nous, en fait, ce qu'on avait fait pour l'article sur les applis, c'est que, bah, comme pour la plupart de nos articles, en fait, on fait une enquête auprès de notre communauté. Donc, en fait, on fait un petit questionnaire qu'on met dans notre groupe Facebook, il y a pas mal de monde, et puis qu'on envoie à tous les gens dont on a l'email. Et en général, quand c'est comme ça, on a entre 500 et 1000 personnes qui répondent. Donc, on a vraiment une... Ça permet d'avoir vraiment une idée de ce qu'ont fait les autres gens qui ont fait un long voyage, quoi. Donc ça nous a permis de donner les applis. Donc, oui, les applis qui sont les plus utilisées, bon bah il y a bien évidemment Booking pour les réservations de logements, même si les gens réservent pas forcément toujours à l'avance, toutes les applis de comparatifs, et après il y a des applis un petit peu plus sur des sujets un peu plus spécifiques, par exemple les gens qui vont faire du voyage en véhicule, ils vont quasiment tous utiliser une appli qui s'appelle iOverlander, qui est une appli qui permet de connaître les endroits où on peut s'arrêter sans problème la nuit, on peut poser son véhicule pour dormir la nuit, les endroits où on peut faire le plein d'eau, le plein de gaz, toutes ces choses-là.
Ah oui, il y a aussi pour simplement sa gourde, ceux qui essaient de limiter le plastique, il y a aussi le Refill My Bottle, qui est une des applications que je connaissais pas. Il y a plein d'applis, je me dis, mais pourquoi je la connaissais pas il y a 2 ans?
Ouais.
Ça aurait été bien utile.
Il y a plein d'applis comme ça, puis après, bah, les applis pour gérer son budget, ou il y a des applis pour faire de la traduction instantanée maintenant avec Google Traduction, c'est pas mal. On peut parler et puis directement avoir la traduction dans le langage quand on est dans un pays dont on parle pas la langue. Si les gens parlent pas anglais, ça peut être pas mal.
Oui, c'est top. Ouais. Même des trucs qui te traduisent les caractères chinois, tu passes ton téléphone et ça te le met dans ta langue. C'est extraordinaire ce qu'on fait maintenant avec tout ça. Et alors, c'est quoi le petit plus du tour du mondiste par rapport à un guide du retard, par exemple? C'est quoi vos éléments différenciants?
Le guide du retard, il va surtout donner des informations sur les destinations. Il va y avoir un guide par pays et on aura des infos sur les destinations. Nous, on donne vraiment beaucoup plus des informations sur toute la partie de préparation avant le départ. Comment planifier son budget, faire son itinéraire, toutes ces choses-là. Donc là-dessus, on est vraiment complètement différent du routard, parce que le routard n'ont pas de guide comme ça sur comment préparer un voyage. Et après, on écrit aussi des guides sur les destinations, où là, nous, on va beaucoup moins en profondeur que pour aller le routard, où il va vraiment expliquer chaque lieu dans le pays de manière très détaillée, en donnant des conseils d'hôtel, etc. Mais nous, le plus qu'on a par rapport au routard, encore une fois, c'est l'expérience de la communauté, en fait. C'est quand on fait une enquête quand on écrit un dossier pays, un guide pays, on fait une grosse enquête auprès de notre communauté, et ça nous permet notamment de savoir, où sont allés les gens dans le pays et qu'est-ce qu'ils ont préféré. En fait, on demande aux gens, on leur fait une liste de tous les endroits visitables dans le pays. On leur dit, lesquels vous avez visités, quels sont les 3 que vous avez préférés parmi ceux-là. Et en fait, en faisant le ratio entre le nombre de citations parmi les préférés et le nombre de citations parmi les visités, on voit, on peut détecter des endroits qui sont un peu hors des sentiers battus, où il y a peut-être qu'une dizaine de gens parmi ceux qui ont répondu qui sont allés. Mais par contre, parmi ceux-là, il y en a 80% qui ont mis ça dans leur top et qui ont adoré, quoi. Qui ont dit que c'était le meilleur endroit qu'ils ont
visité.
Donc c'est vrai, c'est un super moyen de donner un peu un guide de que faire dans le pays, mais où il n'y a pas que les gros incontournables, où il y aura forcément beaucoup de touristes, etc. Ça permet de faire émerger des petits endroits un peu hors des sentiers battus, que quelqu'un qui va visiter un pays comme rédacteur du Routard ou du Lonely Planet a pas le temps de faire. Enfin, quand on va dans un pays pour écrire un guide comme ça, on peut pas non plus y passer 6 mois ou 1 an et aller voir tous les petits endroits inconnus du pays. Donc, on se concentre forcément sur les incontournables, sur les endroits les plus connus.
Ouais, la force de la communauté, alors. Voilà. Ouais, qu'on salue d'ailleurs, votre communauté. Bonjour les tendimondistes.
Bah oui, bonjour, bonjour à tous
travail.
Les tendimondistes.
Ouais, vraiment. Et alors, ils vous envoient aussi de magnifiques photos. Donc, c'est surtout sur Insta, là, ces publications, des photos qui font rêver, hein, c'est ça. Sur vos comptes Facebook, c'est beaucoup, voilà, les interactions. Et Insta, vous partagez les plus belles photos de vos tours du mondiste, c'est ça?
Bah oui, c'est ça, en fait. Comme nous, l'idée, c'est pas de... On n'est pas des blogueurs, donc l'idée, c'est pas de poster nos photos de voyage et de se mettre en avant personnellement. Donc, l'idée qu'on a eue, en fait, c'est d'organiser... donc, dans notre groupe Facebook, où on a pas mal de membres maintenant, on organise tous les mois un concours photo. Là, pour la première fois, ce mois-ci, on fait un concours vidéo. Et en fait, les gens qui ont les photos qui ont le plus plu pendant ce concours... on les poste sur Instagram et du coup ça permet un petit peu de mettre en avant toute la communauté des gens qui font le tour du monde et puis ça sert un peu d'inspiration aussi pour ceux qui veulent partir parce que quand on prépare un tour du monde on a plein d'idées et c'est vrai que de voir les photos ça peut aussi ça peut donner des envies quoi.
Clairement, là, je confirme, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à aller surfer sur vos réseaux, autant que sur votre blog. C'était hyper agréable et ouais, l'Insta, là, je vais souvent encore continuer à aller le voir parce que c'est trop beau, quoi. Bravo les photographes. Est-ce que tu as en tête des récits de personnes qui ont fait des super voyages, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, waouh, ça, c'est un super concept dans cette communauté? Je suppose que vous recevez pas mal de récits, de plans qui vous ont fait peut-être aussi donner envie ou il y a des choses comme ça qui vous ont marqué dans...
Ouais, il y en a un qui m'a marqué parce que c'était vraiment, je pense que c'est le seul qui a voyagé de cette façon-là sur un si long voyage. C'est quelqu'un qui a voyagé, alors je me rappelle plus son nom, mais il a voyagé en monoroue. Je sais pas si tu vois ce que c'est peu les engins qu'on peut voir dans les rues des grandes villes en Europe, qui ont une seule roue et on met les deux pieds de chaque côté, là. Et il est parti jusqu'en Asie
électrique,
comme ça.
Électrique, alors.
Ouais, électrique, quoi. Donc, ça, je trouvais ça assez marrant. Et non, sinon, nous, on a un couple d'amis qui est parti voyager, qui est parti pareil jusqu'en Asie en vélo. Ils ont pris le transsibérien quand même en Russie, mais sinon, ils ont été jusqu'en Russie en vélo et puis, du lac Baïkal jusqu'en Thaïlande, je crois, en vélo. Et ils sont repartis après pour un deuxième voyage où ils ont fait du bateau stop jusqu'au Mexique et après ils sont remontés vers le nord, vers les États-Unis. Donc, ouais, ça, c'est des belles façons de voyager aussi.
Ouais, carrément, c'est des super belles aventures en plus. Alors, vous aviez dit que vous aviez fait toutes les erreurs possibles lors de votre premier voyage autour du monde et c'est là que vous avez peut-être eu envie de partager vos meilleures astuces pour éviter des galères à d'autres.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans ces belles erreurs?
Bah, les deux plus grosses erreurs, je pense que c'est celles des retours qu'on a de la communauté, c'est celles qu'on entend le plus souvent, c'est de vouloir en faire trop. Donc, de vouloir visiter trop de pays, d'avoir un rythme qui est un peu le même rythme qu'on peut avoir quand on part en voyage 2 ou 3 semaines quelque part, alors qu'en fait quand on est en tour du monde, on a très rapidement un rythme qui se ralentit parce que on peut pas soutenir pendant 1 an des visites, changer d'endroit tous les 2-3 jours, revisite, etc. Il y a des moments où on a besoin de souffler,
d'aller plus. D'accord, à 300%.
Ouais. Voilà, et puis c'est l'intérêt d'un tour du monde aussi, c'est de pouvoir plus s'imprégner d'un pays, de le découvrir plus en profondeur. Donc nous, on avait clairement un itinéraire qui était trop chargé. Et du coup, il y a des pays qu'on a zappé complètement. Et même comme ça, on restait avec un rythme qui était sans doute un peu trop soutenu. Et après, la deuxième grosse erreur, c'est d'avoir un sac trop lourd aussi. On était parti avec des sacs qui devaient peser, je pense bien, 16-17 kilos. Et quand il fait très chaud, qu'on doit tourner dans une ville pour trouver un hébergement, qu'il y a des gens qui essayent de vous vendre leur hôtel, etc. En fait, c'est qu'on veut rentrer dans des bus qui sont bondés de monde, où il y a des chèvres et des poules au milieu du bus. Quand on a un gros sac, c'est pas pratique, quoi. Et c'est vrai qu'en réalité, toutes les choses qu'il y avait dans ce sac, on n'avait pas forcément besoin de tout ça, parce que les 80% du temps, on était dans des endroits où il faisait chaud, et tout le matériel un peu lourd pour le, qu'on avait prévu pour les quelques fois où on était dans le froid, ben, on aurait très bien pu louer à cet endroit-là, ou se débrouiller autrement, ou les prendre pour le début et les renvoyer après, ou des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment un conseil, on a toute une partie justement sur l'équipement, et on conseille vraiment d'essayer de limiter au maximum le poids du sac, et ça a vraiment plein d'avantages de voyager avec un sac léger. Ça attire moins l'attention, ça nous rend beaucoup plus flexibles pour saisir des opportunités quand on a envie, ça fatigue moins, ça a vraiment énormément d'avantages. Okay. Et en réalité, c'est vrai que, encore une fois, on va se baser un peu sur les vacances qu'on a pu passer à l'étranger quand on n'a pas encore fait de long voyage, et on va se dire, bon, bah, en vacances, je prends des habits pour une semaine, quitte à faire une lessive au bout d'une semaine, ou même je vais essayer de pas faire de lessive. En fait, quand on est autour du monde, on peut très bien prendre deux ou trois t-shirts, deux ou trois caleçons et deux ou trois paires de chaussettes. De toute façon, on est dans des pays chauds la plupart du temps. On peut les laver tous les jours, les faire sécher, et elles sont sèches en une heure. Et voilà, c'est pas la peine d'emporter sept t-shirts, sept paires de chaussettes et sept caleçons, quoi. Faut vraiment penser plus en couches qui se superposent, on va dire. Il faut avoir une couche légère en dessous, après une couche un peu plus chaude à mettre dessus, une couche coupe-vent si vraiment on veut rajouter encore une couche dessus. C'est un peu la technique des pelures d'oignons.
Comme dont parlait une guide polaire récemment, donc elle rajoute, c'est les couches, le secret c'est les couches. Même là-bas, donc dans un pays où on n'est pas dans ces extrêmes, ça doit très bien fonctionner aussi. Si vous deviez écrire un manifeste pour les tours du monde de demain, ce serait quoi?
Je pense que de plus en plus les gens vont prendre conscience quand même du fait qu'il faut éviter de trop prendre l'avion. Nous on le ressent aussi dans la communauté, on a quand même de plus en plus de messages autour de ce thème-là.
Ah, génial.
Où les gens, alors après c'est pas tout le monde, hein, et encore une fois chacun a sa façon de voir les choses, mais voilà, je pense que dans les tendances qu'on a aujourd'hui dans le tour du monde, c'est les gens vont essayer de moins prendre l'avion. Il y a vraiment une grosse tendance de fond sur le voyage en véhicule. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent dans leur propre véhicule. Ça a des avantages, des inconvénients. Les gros avantages, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté, de souplesse. On va plus facilement sortir des sentiers battus, aller dans des endroits où il y a aucun autre touriste. On va peut-être parfois plus facilement même aller au contact des habitants des pays, parce que justement, on ne sera pas dans des endroits où il y aura plein de touristes, où il y aura qu'une interaction qui sera un peu de clients à fournisseurs, on va dire. Donc, des fois des relations un peu plus naturelles. Et par contre, les inconvénients, c'est que c'est peut-être un peu plus solitaire. On va avoir moins de contacts avec d'autres voyageurs, qui peuvent être aussi très sympas des fois, les contacts avec les autres voyageurs. Et puis après, il y a des contraintes aussi un petit peu d'organisation logistique pour transporter le véhicule. Ça peut coûter parfois un peu plus cher.
Ok, donc c'est comme ça que tu le vois, peut-être un peu moins d'avions, peut-être d'autres systèmes qui vont se dégager. Alors le monoroule, à mon avis, je suis pas sûre qu'il y en aura la moitié.
C'est le sentiment qu'on a, mais après je pense que finalement ça change pas tant que ça, le voyage a toujours existé, et il y a toujours eu des gens qui ont voulu voyager, et il y en aura encore toujours, et ça change pas tant que ça finalement. L'idée est toujours la même, hein, c'est l'idée de fond derrière.
Après, ouais,
la façon de le faire peut évoluer un petit peu.
Ouais, mais... ouais. Ah ouais, tout à fait. En comptant en plus qu'effectivement, si on crée son logement soi-même, c'est des hôtels en moins qui doivent être construits, donc c'est des endroits en moins qui sont, c'est des endroits en plus qui peuvent rester sauvages, parce que c'est vrai que si tout le monde veut pouvoir aller partout en même temps, c'est juste pas faisable. Quand tu vois des pluies d'hôtels qui tombent parfois sur des coins qui étaient paradisiaques et isolés avant, et puis ils commencent à être en vogue. Pouvoir avoir son petit logement autonome, il y a du bon aussi, hein.
Oui, c'est sûr que c'est un des gros avantages aussi du voyage en van, c'est que ça évite la construction de logements juste pour les touristes qui vont abîmer l'écosystème.
Exactement. Et alors vos prochains voyages, vous en avez déjà qui sont planifiés là ?
Alors nous pour l'instant, nos prochains voyages, ça reste très local, hein, parce que c'est vrai que moi je voyage plus très loin pour l'instant. Alors je suis pas de le refaire à un moment ou à un autre, mais non, non, moi je pars simplement dans le Massif central cet été, dans une maison de la famille, et puis après en Corse avec des copains.
Ouais, mais quand c'est si beau, hein, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus
Ouais.
loin. Hein. C'est vrai que, ouais, justement, la Nouvelle-Zélande, j'avais été, puis je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a été si loin? Franchement, il suffisait d'aller en Suède et en Norvège, on avait des paysages tout à fait similaires. Voilà, on a des choses très contrastées en Europe et on se rend pas compte de la chance qu'on a. Peut-être, parfois, en allant plus loin, on se dit, bah, c'est vrai que tout compte fait, on est gâtés, nous. Donc oui, nous aussi, on est sur l'Europe pour le moment et on en est ravis. Est-ce qu'il y a un livre que vous recommanderiez pour rêver de voyage cet été?
Un livre,
Enfin, ça sera peut-être plutôt à la rentrée, mais pour continuer à
ouais.
rêver voyage à la rentrée alors.
Alors ça dépend si c'est pour rêver, je saurais pas trop répondre. Pour préparer un voyage, il y a un livre qui est super bien qui s'appelle La Bible du grand voyageur, qui est un livre qui est édité par le Lonely Planet,
Ok.
qui est bien fait, assez complémentaire par rapport à notre site. Bon, il y a pas mal d'infos qui vont se retrouver entre les deux.
Et dans vos voyages, enfin dans votre tour du monde en commun, hein, on va parler de celui-là puisque c'est lui qui a lancé toute votre histoire, un des moments que vous avez préféré.
Bah moi, il y a deux moments que j'ai vraiment adoré. On a fait le tour des Annapurna, le circuit des Annapurna. Donc c'est un trek qui fait tout le tour du massif des Annapurna au Népal. Et ça, c'est un moment que j'ai adoré. Ça, on l'a fait assez lentement en prenant notre temps en 3 semaines. Et
Ouais.
c'est vrai qu'on a rencontré plein de gens pendant cette marche. Et moi, j'adore le voyage à pied. En fait, j'aime bien prendre le temps, faire des longs treks comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis c'était vraiment magnifique. Donc ça c'est un moment que j'ai adoré. Et après je dirais aussi bah la période que j'ai passée en Indonésie où j'ai passé 2 mois sur une île en Indonésie pour passer mes diplômes de plongée. J'ai adoré aussi. Bah. Moi
Ah,
je suis
c'était sur
passionné de
quelle île?
plongée. C'est Gili Trawangan. C'est une île qui est près de Lombok.
Ouais, je vois. Nous on était sur Bali, moi c'est voyage noce, mais on s'était rencontrés à la plongée, mon mari et moi,
D'accord.
et on a passé un niveau de plongée à Amed, qui est aussi un des endroits connus sur Bali pour la
Ah oui, ben
plongée.
on y avait plongé, ouais. C'était là où il y a l'épave du Liberty.
Exactly.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as dû aller voir les raies alors à cet endroit-là, non? Où tu étais?
Non, j'ai pas vu de raie, non.
Ah, c'est pas loin, il y a un endroit de ce côté-là où il y a moyen d'aller voir les Raymanta. Ça doit être.
Ouais.
Ça, c'est sur la wishlist aussi.
Non, malheureusement, j'ai jamais vu de Raymanta. J'ai vu pas mal de choses, mais pas de Raymanta.
Et alors, un des faits qui vous a le plus appris, la plus grosse galère de voyage, tu te dis, oh là là.
Notre plus grosse galère, c'était en Argentine. En fait, on avait loué une petite voiture pour faire un tour un peu dans la région de Salta, dans les déserts, etc., autour de Salta, avec 2 autres Français qu'on avait rencontrés là-bas. On avait partagé la voiture avec eux. Et en fait, c'était une période où il pleuvait beaucoup. Il y avait des grosses grosses averses. Il y avait
C'est
beaucoup
comment
de
ça, le Salta, c'est en altitude, c'est montagne, c'est plaine, c'est
Salta,
quoi?
c'est un petit peu en altitude et c'est assez désertique. C'est dans le nord-ouest de l'Argentine, près de la Bolivie. Donc c'est vraiment des grands déserts et beaucoup de cactus, des choses comme ça.
Ok.
Mais par contre, il peut pleuvoir de manière très forte, très soudaine. Il y avait des espèces de torrents qui se formaient, qui traversaient la route, la piste sur laquelle on était. En plus, on n'avait pas un 4x4, on avait juste une petite voiture. Et donc, bon, on en a traversé quelques-uns à gué comme ça, on passait dedans, ça va, ça passait. Sauf qu'un soir, on se dit, bon, allez, il y en a un, bon, il a l'air un peu gros, mais c'est bon, les autres, ils sont passés, on va y aller. Et en fait, on est passé, on est resté coincé au milieu de ce torrent qui traversait la route. Et il y avait l'eau qui commençait à monter dans la voiture, il commençait à faire nuit, on était au milieu de nulle part.
Ah
Et là,
d'accord,
c'était
ouais.
vraiment, vraiment galère, quoi. On s'est dit, bon, bah, on a vraiment notre caution, enfin, pas notre caution, mais on va devoir même rembourser la voiture, ça va être. Et finalement, on a fait quelques kilomètres à pied, on a réussi à trouver quelqu'un qui parlait même pas espagnol, qui parlait que quechua, avec des signes, etc. On a réussi à faire comprendre les choses, qui a appelé des gens qui sont venus avec leur pick-up pour nous tirer, pour nous sortir de là. Entre-temps, on avait dû construire un barrage au-dessus de l'eau pour éviter que l'eau monte trop dans la voiture, qu'elle détruise toute la voiture. Bon,
Oh
la
là
voiture
là.
était en état catastrophique, mais bon, on a passé toute la nuit à la nettoyer, etc. Et puis bon, finalement, on a réussi à la rendre sans problème, mais on a eu une bonne petite frayeur quand même.
Excellent.
Ah bah ouais, bah surtout qu'en plus, c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont carrément emportés, hein, donc c'est pas mal. Ouais. Ok, donc méfiez-vous des eaux qui coulent sur les routes.
Et puis une autre galère que j'ai eue aussi, c'était en Bolivie, où j'avais fait... Il y a une route, une grande route qui descend des hauteurs de La Paz vers un petit village dans la vallée derrière. On appelle ça la route de la mort, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de... Elle était ouverte aux voitures et il y avait souvent des accidents.
Ah mon Dieu, elle est connue, celle-là.
Ouais. Et bon, maintenant, elle se fait vraiment plus qu'en vélo. Donc, moi, il y avait un Argentin qui m'avait prêté son vélo. Donc, j'étais parti en minibus en haut pour descendre la route. Tous les gens qui le font, souvent le font avec des agences. Ils ont des casques, des protections sur les coudes, etc. Moi, j'y étais allé un peu comme ça, quoi. Et donc, j'ai descendu la route.
En mode touriste, on peut le dire.
Voilà, exactement. Et donc, toutes les parties dangereuses, j'y allais très prudemment, etc. J'ai vraiment fait attention, parce qu'il y a des gros précipices sur le côté du chemin, donc il fallait quand même faire gaffe. Et à la fin, quand la route était vraiment un peu moins en pente, qu'il n'y avait plus de précipices sur les côtés, je me suis un peu lâché, je suis parti un peu à fond, etc. Et à un moment, j'ai fait un énorme vol plané au-dessus du guidon, et je me suis fait un énorme gadin dans les graviers et j'ai failli pas pouvoir remonter sur le vélo pour finir la route. C'était bien galère ça aussi. Puis du coup après j'ai boité pendant 2 mois. J'ai pas pu faire de trek pendant 2 mois. Pendant toute la partie on était Pérou, etc. Donc j'étais un peu dégoûté.
T'auras payé ton tribut à la route de la mort.
Voilà, donc j'ai fait des économies sur la location de vélo, pas passer par une agence, mais bon, c'était pas forcément très rentable.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est bien, quitte à passer au-dessus du guidon, je te félicite d'avoir choisi les graviers plutôt que le précipice.
Oui, enfin, voilà, c'était dans mon malheur, ça aurait pu être pire.
Quelle est ton actualité du moment, vos projets futurs pour le blog? Où est-ce que vous en êtes là?
Alors, notre actualité, pour l'instant, on travaille beaucoup sur la mise à jour des articles pays, enfin des ouvertures, fermetures de pays avec le Covid. Là, maintenant, ça commence à se calmer, ça nous prend moins de temps, donc c'est vrai que c'était notre grosse...
D'ailleurs, comment vous avez fait quand c'était vraiment le full pandémie, tous les tours du monde, la communauté, alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer le temps?
Ça s'est très peu arrêté, parce que l'Amérique latine est restée très peu de temps fermée. Le Mexique, par exemple, est resté ouvert tout le temps, et très très vite, quasiment toute l'Amérique latine a rouvert. Donc en fait, les gens ont continué à voyager, alors évidemment un petit peu moins qu'avant, mais en fait ça s'est pas arrêté. Les gens qui partent en long voyage comme ça, c'est des gens qui sont peut-être un peu moins craintifs, et donc du coup en fait les gens ont continué à voyager, et donc on les a pas mal aidés justement en suivant vraiment au jour le jour, à chaque fois qu'un pays remettait des restrictions, enlevait des restrictions, autorisait que les vaccinés, demandait un test PCR, etc. On a tenu ça à jour de façon très précise, et du coup le trafic du site a plutôt explosé pendant le Covid plutôt que baissé comme on aurait pu le croire grâce à cet article.
Ah, d'accord. Et donc ça, ces infos, vous les publiez sur le site et sur les réseaux alors ou...
Sur le site et sur Twitter.
Et sur Twitter. Ah oui, vous tweetez tout ça aussi. Ah, j'ai pas encore été voir Twitter. Je vais vous voir là-dessus. Ils sont partout.
Enfin,
on a
un article avec des cartes, en fait, avec des couleurs pour chaque pays, pour savoir, pour les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées, quelles sont toutes les restrictions.
Ah, super pratique, dis donc.
Ouais. Donc ça, c'était notre grosse actualité ces 2 dernières années. Et après, sinon, sur les projets en cours, là, on est en train de refondre le comparatif d'assurance voyage. Parce que c'est un sujet important pour les gens qui partent en voyage, de partir avec une bonne couverture. Et donc là, on a travaillé avec une agence de développement pour faire un comparateur qui va calculer le prix en fonction de la durée du voyage, du nombre de personnes, de leur âge, de la zone dans laquelle elle voyage. Donc on va avoir un comparatif qui maintenant permet de calculer le prix. Donc ça va, je pense que ça va bien aider les gens à faire leur choix. Et l'autre gros projet qu'on a, c'est qu'on est en train de faire traduire le site en anglais. Donc on a une
oh dear.
Voilà, la voisine de François qui est anglaise qui travaille là-dessus depuis presque un an.
Et François va au bar mais en anglais cette fois-ci pour
voilà, c'est ça. et donc on devrait avoir un site, ça va s'appeler Away for Long, et ce sera vraiment la version anglaise de Tour du Monde. C'est en fait le travail, c'est pas que de la traduction, c'est beaucoup d'adaptation aussi parce que les articles toutes les informations qu'on donne aux Français ou aux francophones ne s'adaptent pas forcément littéralement à des Anglais ou des Américains. Donc voilà, il y a un gros travail de recherche à faire à nouveau aussi pour, typiquement, on parlait des assurances voyage. Les assurances voyage pour un Anglais ou un Américain ne seront pas les mêmes que celles que prennent un Français. Donc il faut refaire les comparatifs, etc. Les pareil pour les sacs à dos, ils vont pas. Les Américains achètent pas du Decathlon, donc il faut refaire des comparatifs avec les marques qui sont vraiment utilisées par les Américains, etc.
Et ils ont peut-être même pas le même style de voyage du tout, quoi. Donc vous allez peut-être découvrir des différences de mentalité de voyage. Non.
Ouais, alors c'est un peu une, c'est un peu un pari de notre côté parce que c'est vrai que le concept de tour du monde, il est assez finalement assez français ou à la rigueur européen, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de d'Allemands, de Hollandais, de choses comme ça qui font des tours du monde. La notion, elle est un peu différente en Angleterre ou aux États-Unis et même dans chacun de ces pays-là, elle peut être différente. Donc les Anglais, ils ont pas mal la notion de gap year où ils vont prendre une année juste avant ou juste après leurs études. Mais c'est un peu différent de la façon de voyager des Français. C'est des gens plus jeunes qui partent avec moins de budget, qui vont peut-être plus aller faire la fête, etc., qu'aller faire de la rando au fond du Népal. Donc c'est
probable, c'est probable.
c'est pas forcément la même façon de faire les choses, mais après il y a aussi, en tout cas nous notre pari, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont envie de faire des longs voyages un peu de la même façon que les Français dans ces pays-là et qui, je pense, sont intéressés pour avoir des informations pour organiser ce genre de choses.
Ah, sacré défi, en tout cas. Mm-hmm. C'est chouette. Son lancement est prévu pour quand?
C'est difficile à dire, mais on espère avant la fin de l'année.
Ouais, bien dis donc. Tout le meilleur avec ce projet-là, en tout cas.
Ben, merci.
Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver un tour du mondiste?
Tour du mondiste, donc il y a notre site, hein, tourdumondiste.com. Après, on a le principal lieu où se retrouve notre communauté, c'est un groupe Facebook. Donc on a, il y a le lien sur notre site, qui s'appelle Tour du mondiste la communauté. Il y a maintenant à peu près 60 000 personnes, je crois. Et donc du coup.
60 000.
Oui, ouais, ouais. Donc c'est pas une page Facebook publique, hein, c'est un groupe privé où quand on le rejoint, après on peut poser des questions et donc on a choisi de restreindre les questions uniquement sur des voyages longue durée. Donc c'est un groupe qui est vraiment que pour les gens qui font des longs voyages. Il y a pas personne ne pose des questions sur des vacances en Espagne ou des choses comme ça. L'avantage c'est que ça reste vraiment la communauté des gens qui sont en long voyage.
Donc ça c'est Facebook.
Ouais, Insta, c'est Facebook.
C'est les résultats.
Après
des concours,
donc on a Instagram où on pose c'est surtout les photos de la communauté du coup. On a un compte Twitter qui en ce moment sert beaucoup à relayer les informations sur les restrictions Covid dans les pays. Et après on a une page Facebook qui est un peu dormante maintenant, on s'en occupe plus beaucoup. On avait une page Facebook qui à l'époque avait pas mal de, enfin qui était pas mal suivie, mais c'est vrai qu'avec les changements d'algorithme de Facebook, qui est choisi de pas forcément de pas montrer les pages qu'on suit aux gens sur Facebook, on a choisi de plus trop y passer de temps parce que ça servait plus à grand chose.
D'accord, donc on retrouve principalement alors sur le groupe, la communauté, groupe privé, Insta et Twitter. Et évidemment, le blog étant l'outil central.
Voilà, et après on a une mailing list auquel les gens peuvent s'inscrire et qui permet de recevoir, chaque fois qu'on publie un nouveau dossier, du coup on l'envoie aux abonnés. Et c'est important pour nous aussi, pour toutes les enquêtes qu'on fait qui nous servent justement de base pour écrire les articles. Parce que c'est une fois qu'on a les emails des gens qui seront dans le groupe, dans la communauté, qu'après ils peuvent voir nos enquêtes et y répondre et pour aider les prochains qui vont partir du coup.
Ouais, non, c'est génial. Il y a une super bonne énergie en fait. C'est ça qui m'avait tenté. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Et j'ai dit, c'est génial ce blog. J'ai commencé à regarder. J'étais vraiment très ravie de tout ce que je découvrais. Donc je me dis, il faut qu'on se fasse un petit épisode là. Il faut filer la bonne adresse à tout le monde. Mais il y en a déjà beaucoup qui la connaissent visiblement. Hein, donc, on va continuer à la perpétrer. À la perpétuer. Eh bien, un grand merci pour ton temps aujourd'hui, Sylvain.
Merci, Anne-B. Merci beaucoup pour l'interview. C'est la première fois qu'on fait ça et c'est intéressant.
Tant mieux. J'espère que vous en aurez des retours sympas aussi.
Merci.
Tu retrouveras toutes les infos sur Tour du Mondiste dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi le lien vers la page web de l'épisode pour accéder aux photos ainsi qu'à d'autres infos complémentaires. Le prochain épisode sera très probablement le océan. J'ai la chance d'enregistrer la semaine prochaine avec le formidable Didier Noirot. Cousteau, David Attenborough, Jacques Perrin, il a filmé l'océan avec les plus grands. Cela promet une belle brochette d'anecdotes à se mettre sous la dent. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci et à bientôt.